Hey, salut, c'est Alex du podcast Du bruit à mes oreilles, du crime à mes oreilles. C'est pour te dire que cette semaine, on a un commanditaire sur le podcast. L'épisode est une présentation du courtier immobilier Mathieu Grenier, mon cher courtier à moi. Meilleur courtier, il fait partie de l'équipe CGA. Si tu veux vendre ou acheter une maison, je te le dis, faut que tu passes par lui. Il sait cibler tes besoins, il sait reconnaître les besoins de son client. Si jamais tu veux le rejoindre, son cellulaire, c'est le 514-791-2612 au bureau. C'est le 450-464-1000. Et vous pouvez aussi le rejoindre par courriel à info.votrecourtier@gmail.com. Les bureaux sont au 170 rue Serge Pépin à Belleuil. Pour de vrai, si vous voulez faire affaire avec une équipe de feu, allez voir l'équipe CGA. Essayez de pogner Mathieu parce que c'est le meilleur de l'équipe. Moi, je vous le dis. Puis, c'est ça. Allez toutes vous acheter des maisons avec Mathieu. Yes! Bon épisode, tout le monde. Last December, heavy metal band Damage Plan took the stage at the El Rosa Villa.
Toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York.
Tupac Shakur, dead in Las Vegas, ironically, on this Friday the 13th.
All right. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du crime à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis en compagnie du succulent, majestueux, Papy Joe. Comment ça va, Papy Joe?
Correct.
T'as passé un beau week-end au chalet?
Ouais. La neige était belle.
Ouais.
Puis c'est ça.
Il n'y avait rien d'autre de le fun.
Ben, c'était Noël, là. Je veux dire, c'est pas des choses super agréables, Noël.
Oh.
T'es pogné avec ta famille. T'es obligé de l'avoir une fois par année, puis c'est déjà trop. Là.
Bon, c'est pas drôle, la vie.
Non. J'ai rencontré la nouvelle copine de mon frère.
Ah, puis?
Elle est correcte,
gentille?
Ben ouais. À date, elle m'a pas regardé, puis elle m'a pas jugé. Fait que... Elle m'a pas plutôt regardé avec un regard
de jugement.
Ouais, c'est ça.
Ah, c'est pas pire, tu fais des points.
Exactement.
Toi, ça doit t'arriver quand même souvent.
Un peu trop souvent.
Au moins ici, on le sait que t'es apprécié quand même.
Exactement. Et pour fêter, parce que je sais pas si on va savoir avant le nouvel an, mais j'en ai des échantillons d'alcool. Fait que, oh, tu veux-tu déguster un chocolat?
Un chocolat d'alcool, ouais, j'en ai vu un au Canadian Club.
Ouais, Canadian Club, tiens.
Ouais, je vais prendre un Canadian Club.
Moi, je vais prendre un... Oh, on entend bien le plastique.
Ouais.
Je vais prendre un vodka. Un cognac. Un cognac fine champagne. Rémi Martin. Je sens que ça va goûter mauvais.
Mais c'est sûr que ça coûte jamais vraiment bon, hein. C'est ces petits cossins.
Je sais pas pourquoi le monde aime ça, l'alcool.
Mais l'alcool, oui, là, mais ces petits chocolats, ça... en tout cas, jamais, ça n'a jamais été un grand succès pour moi.
Non, je mets ma bouteille d'eau à côté pour me rincer à la bouche, en cas où.
Voyons, tabarnak.
Je pense que j'ai le manuel d'instruction que comment les déballer.
Tu t'es en train de rire de moi, toi, là?
Un tantinet.
Tiens, ça fait un beau moment. Cheers, Justin.
Qu'est-ce que c'est pas bon avec du sucre?
C'est pas super, le mien.
C'est du pas bon sucré, c'est tout.
Mais. Pas mon mélange préféré. Mais c'était pas le pire.
Non. Pourquoi j'ai fait ça?
Bon! Fait que. Maintenant qu'on a mangé un bon chocolat. Joe, qu'est-ce que tu nous as préparé cette semaine?
Ben, partie 3.
Mm-hmm.
Ouais, partie 3. Enter les années 80. On sort la cocaïne puis les pads. Les cheveux crêpés puis le maquillage exagéré dans le visage.
La meilleure époque.
Peut-être parce que j'ai plus connu les années 90, mais non, les années 70, musicalement parlant, j'ai aimé. Les années 80, il y a des bonnes choses qui ont été faites. Il y a des très mauvaises choses qui ont été faites. Les années 90, c'était... Non, je sais pas. J'ai pas trippé les années 80. J'ai pas... T'sais, pourtant, j'en ai parlé un peu là, de qu'est-ce qui a été fait point de vue satanisme, mais j'ai pas...
Pas capoté. C'est pas non. Ta meilleure époque.
Non, c'est pas ma meilleure époque. Mais avant, évidemment, de bien pénétrer les années 80, je vais revenir un peu sur le personnage qui était Anton Zandor LaVey, plutôt connu aussi sous le nom de Anton LaVey, de son vrai nom, Howard Stanton LaVey, surnommé dès son plus jeune âge Tony LaVey, né le 11 avril 1930 à Chicago et mort le 29 octobre 1997 à San Francisco, est le fondateur de l'Église de Satan et l'auteur de l'ouvrage La Bible satanique, publié en 1969 et traduit en français en 2006. Comme j'ai déjà dit, ils ne savaient pas où faire leur argent parce que fait longtemps que j'aurais dû qu'ils auraient dû traduire ça. Jeune, il développe un...
Tu l'as racheté bien avant. Directement à sa deuxième tablette.
Non, première tablette, faut éduquer les enfants sur les bonnes choses de la vie.
OK. Ça, c'est important, le satanisme.
Exactement. Jeune, il développe un intérêt pour la littérature noire, telle que Dracula ou Frankenstein. Il dévore également les pulpes. Les pulpes, ça n'existe plus vraiment, mais c'est des écrits populaires ou sensationnalistes, généralement considérés comme de mauvaise qualité. Moi, j'aime ça. En fin de compte, c'est le série B des livres. Il deviendra plus tard ami avec les auteurs de ses bandes dessinées. Il regarde aussi des films noirs et s'éprend pour l'expressionnisme allemand des années 1930. En tout cas, moi, les affaires de peinture, c'est pas mon fort. J'aime ou j'aime pas. Puis là, donner des termes trop intellectuels à des peintures... Je m'en calisse. Peu studieux. Hey, j'essaie de lire.
Le tabarnak. Laisse ça là. M'en calisse.
Ça va venir, là. Pas de temps à perdre. Peu studieux, il abandonne les études à 16 ans. Il fréquentait le lycée de Mont-Tamalapé dans le comté de Marin. Fréquente le milieu du cirque et joue de l'orgue ou du piano dans les maisons burlesques à Los Angeles. Il prétend avoir eu une courte relation à cette époque avec Marilyn Monroe. J'espère que tu sais c'est qui Marilyn Monroe.
Oui.
Okay, c'est bon. Le stagiaire, est-ce que tu sais c'est qui Marilyn Monroe? Non, j'ai aucune idée de ce que tu parles, Jonathan. Franchement, stagiaire, fais tes recherches. C'est quand même une des plus belles femmes au monde. Elle est peut-être un peu morte, mais elle est encore belle, je suis sûr. Alors que celle-ci n'était pas encore connue, lorsqu'il revient vivre à San Francisco, il travaille brièvement comme photographe pour la police, puis s'inscrit au City College de San Francisco en criminologie pour éviter l'appel à la guerre de Corée. Deux éléments biographiques qui n'ont pas pu être vérifiés. Fait que... on ne saura pas. Il lui arrive alors de jouer les enquêteurs psychiques pour la police sur les crimes semblant relevés d'une forme de spiritualisme. Devenu une célébrité locale grâce à ses recherches sur le paranormal et à ses prestations d'organiste, pas des organismes, mais l'organisme comme...
L'organisation.
Ouais, c'est ça. Tu sais, l'organisation avec des gros pipes, là, dans des églises.
L'orgue.
Ouais, c'est ça, l'ogre.
OK. L'orgue.
L'ogre. Comme Shrek?
Non.
Tu pèses sur la bande de Shrek puis ça fait de la musique? Non,
ouais, c'est l'orgue. C'est ça. L'orgue.
Essaya d'attirer les notables de San Francisco à ses soirées. L'avait commencé à présenter le vendredi soir des lectures sur le terme de l'occulte dans un cercle appelé « The Magic Circle ». Un membre de ce cercle proposa de jeter les bases d'une nouvelle religion. Le 30 avril 1966, il déclarait la fondation de l'Église de Satan. Cette événement attira l'attention des médias qui se mirent à le surnommer le Pape Noir. L'abbé commença à présider des cérémonies de baptême satanique, ce qu'il fit sur sa fille Zina, et de funérailles sataniques. Il mentionna que le fait de voir tant de personnes attendre avec impatience la nuit du samedi soir en pensant aux écarts de conduite qu'ils allaient faire et de les voir le lendemain prier à l'église lui donna une vision très cynique de la religion. À la fin des années 60 et au début des années 70, l'abbé s'inspira des idées d'Ayn Rand et d'Aleister Crowley. Est-ce que tu t'en souviens d'Aleister Crowley? Es-tu vraiment en train de prendre un chocolat subtilement?
Je suis en train de t'en déballer un.
Ouais. Ah, merci. Tu te rappelles, c'est qui Aleister Crowley?
Oui, tu nous as parlé de ça dans l'épisode passé.
Merci. Pour écrire la Bible satanique, livre qui rassemblait les thèmes de l'église de Satan. Il réside dans le quartier du Richmond. Il donne l'adresse, le 6114 California Street, à San Francisco, où il héberge un lion nubien. Rien de moins, hein, pourquoi pas?
Toujours une bonne idée.
En 1967, il y baptise sa fille dans un rituel satanique impliquant la présence d'une femme nue. Il est également consultant spiritualiste et conseille sur les phénomènes surnaturels. Anton affirme également avoir joué le diable dans la scène de viol du film Rosemary Baby. Il meurt le 29 octobre 1997 à l'âge de 67 ans d'une attaque cardiaque et d'un œdème pulmonaire. Fait que quand même, fait que t'as pas fini de déballer l'autre, là.
Mais je n'ai fait un.
Je me suis dit, genre, on allait faire un cheers avant
de faire. Mais c'est ça que je suis en train de faire.
Ok, on va faire un cheers. Puis là, tu m'as déballé quoi exactement?
Ah. Surprise.
Je sens que ça va être dégueulasse.
Sûrement. Cheers.
Cheers. Mais c'était-tu une vodka, quelque chose ou?
Je m'en rappelle pas. T'as pas un bon rhum, lui.
Oui, c'est juste pas de la bonne alcool.
C'est pas bon.
Non, c'est pas bon, hein.
Bonne année.
Ah, je savais que la prochaine allait avoir un goût amer, mais pas à ce point-là.
Let's go.
Bon. Nous voici dans les années 80. Les racines les plus discernables de la vague moderne de black metal apparue en Norvège et ailleurs au début des années 90 peuvent être clairement observées chez les pionniers d'une dizaine d'années plus tôt. Venom, Merciful Fate, Battery. En retraçant cette lignée, nous sommes déjà entrés en territoire subjectif. Nous pourrions en inclure plusieurs autres tels que Slayer, Hellhammer, ou, en parenthèse, Celtic Frost.
La pré-partie de ta grande épopée du satanisme, d'ailleurs, notre épisode, justement.
Oui, exactement, c'est l'épisode zéro. et d'autres groupes. Mais en raison de la chronologie et de l'impact à la fois en termes de musique, d'apparence et de philosophie, notre attention se concentre sur les trois premiers. Et évidemment, on peut aller aussi voir, comme faire du cherry picking, parce que plusieurs groupes, autant metal que rock, ont abordé quand même le terme du satanisme ou de l'anti-religion en général. Mais les trois, Venom, Merciful Fate et Battery, disons qu'ils en ont fait un peu leur piédestal, leur publicité, okay, leur image. On va commencer par Merciful Fate et un peu King Diamond, parce que les deux viennent un peu ensemble. Merciful Fate est un groupe de heavy metal danois originaire de Copenhague, formé en 81 par le chanteur King Diamond et le guitariste Hank Sherman. Puisant les influences musicales de leurs parrains du metal tels que Black Sabbath et Deep Purple, ils ont combiné un vocal caractéristique de King Diamond, évidemment de Merciful Fate, à ses débuts avec un mini LP éponyme en 82 qui contenait l'hymne None Have No Fun. Évidemment, on peut le traduire en disant « les nonnes n'ont pas de plaisir », mais moi, j'aime mieux dire « les nounes n'ont pas de plaisir ». Cela a été suivi par deux albums plus avancés, « Melissa » de 1983 et « Don't Break the Heart » de 1984, débordant d'histoires de rythme magique, de fantasy cauchemardesque sur les conséquences de pactes rompus et de déclarations d'allégeance satanique. Dans une présence cynique intelligemment conçue, King Diamond a chanté des provocations blasphématoires sous un masque de peinture faciale noir et blanc, théâtralement sinistre. Son microphone attaché à une forme de croix de deux os de jambes humains, à bien des égards, les disques de Merciful Fate exerceront sur leurs fans la même influence que des groupes tels que Black Sabbath. Diamond a reçu occasionnellement l'attention des tabloïds et de nombreuses critiques pour sa promotion de sujets pervers à travers sa musique, mais il était toujours prêt à déclarer sa personnalité, son dévouement à la marque du satanisme de l'avé. Il souligne que les images extravagantes et horribles présentes dans certaines de ses paroles n'étaient pas à prendre au sérieux. Diamond représente l'un des seuls interprètes du métal satanique des années 80 qui était plus qu'un simple faux-né utilisant une image diabolique pour le choc value. Entre sa franchise sur ses engagements personnels et le visage maquillé de son personnage cynique, son influence se fera sentir sur le black metal. Il est difficile d'imaginer que King Diamond emmène quiconque commettre des atrocités. King Diamond, parce qu'il y a eu Merciful Fate, après ça, il y a eu sa carrière solo. Pour les gens qui veulent aller le googler, c'est simple. C'est lui qui a amené un peu le corpse painting. Avec donc le visage peinturé blanc et noir comme les petites mésanges. Là, et le chant très aigu. Moi, je suis pas capable d'écouter ça, honnêtement. C'est juste un gars qui... dégueulasse.
J'ai une coupe de vinyle de lui dans ma collection.
T'es-tu capable d'écouter ça?
Je n'écoute pas vraiment, non, mais j'en ai.
Ok, c'est juste pour dire que t'es ça.
Ouais, j'en ai.
Ouais.
T'as-tu mis comme, ça? Comme j'ai du Metallica, puis j'ai eu Metallica, mais j'en ai.
Ah ouais, t'as eu Metallica.
Ah ouais, pas capable d'écouter ça.
Honnêtement, je suis surpris. Honnêtement, c'est pas mon groupe préféré, mais tu sais, je veux dire, haïr Metallica, je suis pas. Non, je serais pas capable de dire ça.
Non. Incapable d'écouter ça.
Ok, j'étais un peu surpris. Alors, passons à un autre groupe. On va parler ici de Bathory. Le groupe suédois, aux côtés de Venom, sont des Le groupe suédois Bathory, aux côtés de Venom, sont des porte-flambeaux dans l'évolution du black metal. Commençons par le nom du groupe. Bathory, est-ce que ça te soulève certaines questions ou images, Alex?
Bathory, j'ai déjà entendu le nom. J'ai entendu ça, mais rien de plus.
Rien de plus, parce que Bathory, c'est en fin de compte, c'est le nom de famille d'une demoiselle nommée Elisabeth Bathory.
Ok.
Pour moi, c'est The Ultimate Waifu. J'essaie de trouver des termes de jeunes pour qu'ils me comprennent. Elisabeth de Bathory est une comtesse hongroise de la famille princière des Bathory. Née le 7 août 1560 et morte le 21 août 1614. Les accusations d'un pasteur luthérien et de nombreux témoignages à charge font d'elle l'une des plus célèbres meurtrières de l'histoire hongroise et slovaque. La dame sanglante du nom du château près de Trencsid dans les Hongries royales, aujourd'hui une partie de la Slovaquie où elle vécut la plus grande partie de sa vie. Waouh, je pense que j'ai comme...
Quoi, t'as mal écrit?
Ouais, je pense que j'ai mal écrit cette partie.
C'est dur à se relire, là.
Ouais, c'est ça, je suis comme... Non, ok,
ça fait ça vite cet après-midi, cette botte-là?
Peut-être. Après la mort de son mari, quatre complices supposés et elle sont accusés de sévisme et de meurtre de filles et de jeunes femmes dont le nombre reste incertain. Les chefs d'accusation sont cependant parfois discutés par les historiens du fait qu'il n'existe pas de preuves en dehors de témoignages obtenus sous la contrainte et la torture. Son origine noble lui évite un procès et l'exécution, mais en 1610, elle est emprisonnée dans le château de Kaczyszcz, où elle restera jusqu'à sa mort. On dénombre plus de 300 témoignages collectés entre 1610 et 1611. Les rapports du procès comprennent les témoignages des quatre accusés ainsi que ceux de 13 autres témoins, notamment le castellan et le reste du personnel du château de Sarvar.
C'est facile?
Ouais, c'est, ben, c'est S-A avec un accent, R-V-A avec un autre accent bizarre, puis je sais pas comment on prononce ça. Ses premières victimes seraient de jeunes paysannes de la région attirées à Cachetis par des offres de travail bien payées pour être servantes au château. Plus tard, elle aurait commencé à tuer des filles de la petite noblesse envoyées chez elle par leurs parents pour y apprendre l'étiquette. Des rapes semblent aussi avoir été pratiqués par ses complices. Là, tout va bien. La description, là on arrive dans le croquant. La description de tortures mises en évidence durant le procès sont souvent fondées sur les oui-dire. Parmi les atrocités décrites, on cite notamment de longs passages à tabac, entraînant souvent la mort, des brûlures et autres mutilations des mains, parfois aussi le visage et les parties génitales.
Nice.
Des morsures atteignant des parties de peau du visage, des bras et du corps. Une exposition au froid entraînant la mort. Une mise à mort par dénutrition. L'utilisation d'aiguilles sera aussi mentionnée au procès par les collaborateurs. Certains témoins mentionnent des proches qui seraient morts au château. D'autres rapportent des traces de torture sur des cadavres. Certains étaient enterrés au cimetière, d'autres dans des lieux divers. Le cas de Bathory a inspiré de nombreuses histoires et légendes selon lesquelles elle se serait baignée dans le sang de ses victimes pour garder sa jeunesse, ce qui lui vaudra entre autres le surnom de « Comtesse sanglante ». Ou de Comtesse Dracula, ou première femme de Dracula. Si ces légendes sont largement mises en doute par les historiens modernes, elles persistent malgré tout dans les croyances populaires de nos jours. Plusieurs fois, il y a Cradle of Filth qui a fait une chanson sur elle, et il y a Bathory dans le groupe. Ah non, il y a un autre. Il y avait un autre, c'était un album, il a fait comme une frasque qui dépeint l'histoire, mais je me souviens plus du groupe.
OK.
Parce que...
J'ai des choses qui arrivent.
Revenons au groupe. Formé en 83 par Corton, Jonas Akterlund et Frédéric Melander, le groupe n'a pas trouvé de nom avant l'enregistrement de la compilation Scandinavian Metal Attack de 84. Jonas affirme que lui et Frédéric ont formé le groupe avant Corton. Fait qu'il y a peut-être une petite discorde entre eux autres, là, des potins. Les trois premiers albums de Bathory suivent un mode d'expression similaire à Venom, bien que la musique soit rendue encore plus vicieuse par un puissant arsenal d'effets bruyants et de distorsions. La section rythmique se fond dans un maelstrom tourbillonnant de fréquences, une toile de fond parfaite pour les voix aboyées d'une nature indéchiffrable. Une grande partie de l'expiation de ce son était simplement les circonstances de l'enregistrement. Un album enregistré en 2 jours et demi avec seulement quelques centaines de dollars de budget. Le résultat final était plus extrême que tout ce qui avait été fait en 84 et a eu un impact énorme sur le metal underground. Rétrospectivement, Corton dit du premier album éponyme de Bathory: si vous l'écoutez aujourd'hui, cela ne vous fait pas grand-chose, mais à l'époque, il a dû faire une sacrée impression. La façon dont il a été enregistré, c'est incroyable de voir à quel point de grandes choses peuvent parfois être faites avec peu de ressources. Les paroles étaient centrées sur la magie noire et le satanisme à la Venom, bien qu'elles soient canalisées à travers un peu d'innocence scandinave et de mélodrame d'adolescent qui a fait sortir la musique encore plus extrême, finalement. Au fur et à mesure que Bathory mûrissait au cours de leur enregistrement ultérieur, The Return en 85 et Under the Sign of the Black Mark en 87, la musique s'est sensiblement ralentie, les chansons sont devenues plus élaborées, à ce point se produisit un remarquable changement d'orientation qui, comme leur premier album, allait également influencer la scène black metal du futur. Blood Fire Dead, le quatrième LP de Pathory, est sorti en magasin en 88 et a été saisi avec impatience par d'autres fans de métal à travers le monde. Au lieu de la pochette de l'imagerie des albums précédents, une image entièrement différente les a accueillis. Une armée grouillante et aéroportée de Valkyries enragées sur des chevaux noirs stimulés par le dieu nordique Thor. Le marteau tenu en l'air dans un juste défi, comme une peau de loup, un guerrier masqué tire une fille nue de la terre brûlée en dessous. Cette remarquable
peinture... Rien de mieux pour exciter des vikings.
Moi, en tout cas, je t'excite. Cette remarquable peinture...
On voit l'étincelle dans tes yeux.
Cette remarquable peinture romantique du Norvégien Peter Nikolai Arbo était la voie idéale vers le nouveau son de Bathory. Plus accessible que les précédents albums du groupe, le nouvel album était néanmoins tout aussi brutal. Blood Fire Dead a utilisé la même quantité d'agressivité brute, mais l'a canalisé à travers des chansons orchestrées et des voix compréhensibles, qui ont été aidées par des paroles plus réalistes et réfléchies. Même s'il n'était pas conscient de son influence, Bathory a réussi à créer le modèle du black metal scandinave dans toutes ses myriades de facettes, autant le black satanique que sa petite branche cousin qui garde un côté antichristianisme, le viking metal, parce que c'est plus cool des dieux vikings qu'un dieu unique.
Tout est important, man.
Tout est dans les détails.
Ok, oui.
Maintenant, je l'ai nommé plusieurs fois, le petit groupe, mais nous sommes rendus à lui, à Venom. Venom a vu le jour entre 1979 et 80.
Dernière tête d'affiche du Montebello Rock.
Pour de vrai, ils sont encore actifs. Je vais pas checker s'il est encore actif. Tabouin. Hey, ça doit être des grands-papas. Là.
Ça doit être beau.
Hey, en tout
cas, ça doit être bon.
Osborne, il y a 10 ans, je l'ai vu, mais ça a l'air qu'il fait encore des jours.
Ouais, vous le disiez dans le End Tour là, de Black Sabbath, genre?
Non, c'est... Moi, je dis 10 ans, c'est peut-être plus que ça, là, mais je sais juste que le dernier show que j'ai vu d'Ozzy Osbourne, une chance qu'il y avait un micro pour se tenir. Il était comme...
Étrangement, c'est bizarre, hein, Ozzy, en show, ce que j'ai remarqué, on comprend rien quand il parle, mais on comprend quand il chante.
Exactement. Parce que c'est...
Je me demande pourquoi... Du lip-syl.
Du lip-sync.
Mais ça, c'est élève. Là,
ouais. Alors, Venom a vu le jour entre 79 et 80 à Newcastle, en Angleterre, à la suite de la rencontre de trois fans et musiciens de niveau supérieur qui ont décidé d'aller plus loin que leurs contemporains. Même leur nom mortel n'était pas assez intimidant pour être révélé. Ainsi, Conrad Land, Jeff Dunn et Tony Bray ont respectivement adopté les noms de guerre de Kronos. Qui est Kronos? Dans la mythologie grecque, il est un titan qui aurait tranché avec une foule le pénis de son père. Moi, je trouve ça cool. Et Mantas, mais Mantas, j'ai rien trouvé de cool là-dessus. Et après, il y a Abaddon. Le nom d'Abaddon serait d'origine hébreu, ce qui signifierait destruction ou abîme ou encore perdition. Ça aussi, c'est cool. Leur musique était aussi exagérée que leur titre de scène, avec un contenu lyrique tout aussi anormal. Leur début et leur influence remontent directement aux premiers groupes de heavy metal tels que Black Sabbath et Deep Purple. Venom a pris la lourdeur et le mysticisme sombre de ses prédécesseurs et lui a donné un nouveau souffle. Les vieux groupes s'étaient installés dans des styles de vie somptueux résultant de leur succès, perdant ainsi la crudité. Je savais pas comment...
J'ai une petite carotte, des cocons...
C'est ça, je savais pas comment traduire rawness, le côté raw, c'est ça, fait que la crudité, qui les avait autrefois rendus excitants.
Je suis pas capable, ça marche pas.
Je sais, moi, du coup, mais je vais le laisser là. Après une analyse approfondie, Venom jouait toujours du rock rapide basé sur le blues, mais avec l'agressivité primitive qui, à cette époque, était généralement considérée comme la propriété des groupes punk. Hein? On parle de punk, là?
Non. Oh. Là, tu me parles.
Hein? En Amérique, en effet, un grand pourcentage des premiers fans de Venom sont issus de la scène hardcore et punk, qui se rassemblaient à la sortie des singles du groupe. Les anciennes sonorités de Venom, comme la chanson Die Hard, font écho au son caustique et violent de Black Flag du début des années 80. Bien que si vous ne tenez pas compte de l'enregistrement de basse qualité, les guitares trop distordues et des voix aboyées de Kronos, on se rend compte que Venom n'est pas si différent de Black Sabbath, qui en fin de compte s'est accéléré à 78 BPM. En plus d'avoir été le pionnier d'un son plus sale que tout autre groupe punk ou metal existant en Europe, la notoriété de Venom a été doublement assurée avec son approbation élaborée du satanisme à un degré qui n'aurait causé des wet dreams à des inquisiteurs catholiques du Moyen-Âge. Étant donné le niveau de blasphème dont ils ont fait leur marque de fabrique, il n'est pas surprenant que le groupe puisse être adopté comme une panacée pour l'âme par les enfants élevés dans des jupes chrétiennes de leurs parents et à la recherche de tous les issues possibles. Que les membres de Venom aient pratiqué ou non de tels rythmes en privé était la dernière des préoccupations des auditeurs qui pouvaient, ou plutôt qui voulaient savourer des paroles dégueulasses et rebelles. Évidemment, je t'allais chercher. On va prendre des exemples.
Prendre le temps de nous montrer. Ah, ouais.
We drink, je suis pas capable d'avoir l'air, par exemple. Là. We drink the vomit of the priest, make love with the dying war, we suck the blood of the beast, and hold the key to the dead door. Évidemment, je peux comprendre que c'est pas tout le monde qui comprend l'anglais, fait que je vais le traduire en français. Nous buvons le vomi du prêtre, faisons l'amour avec la putain mourante, nous suçons le sang de la bête et détenons la clé de la porte de la mort.
C'est la 9e porte.
Je sais pas, c'est quoi les autres portes?
Je sais pas.
Moi non plus. De telles paroles polémiques ont touché une corde sensible chez leurs fans, et les albums de Venom tels que Welcome to Hell en 81, Black Metal en 82...
Ils sont allés chercher loin, ce titre-là.
Je continue. Et At War with Satan en 83 se sont vendus à des centaines de milliers d'exemplaires au fil des ans. Avec le titre de leur deuxième album Black Metal, dont la première chanson s'appelle Black Metal, un futur
style... Je me demande c'est quel genre.
Ah, c'est dégueulasse. Honnêtement, c'est mal enregistré.
Ça doit être du Black Metal.
C'est pas le Black Metal que tu penses. Un futur style de musique satanique avait trouvé un nom.
C'est eux qui l'ont créé.
Ben...
Toute la musique que t'aimes, ça part d'eux.
Ben, je vais revenir là-dessus. L'album a également gravé dans la pierre certaines des caractéristiques essentielles du genre. Parmi celles-ci, la première serait une politique ouverte d'opposition violente au judéo-christianisme, le blasphème sans fin et l'abandon de toute subtilité au profit d'un théâtre grandiose qui vacillait au-dessus d'un abîme de kitsch et d'auto-caricature. Parce que, tu sais, je veux dire, quand t'es rendu que tu portes des clous sodo à des gants de cuir, t'as une ceinture de balle, tu te maquilles d'en face. C'est toujours impressionnant quand t'es jeune, mais quand tu vieillis, tu fais comme... Bof.
Mais c'est tout le temps de coquetterie avant d'aller sur stage.
Ah, c'est ça, ils sont en train de se
mettre... Devant un miroir.
Ils sont en train de se trapper, ils font comme, ah, j'ai du l'air tough. Ah oh, oui, t'es beau comme ça. Ok, on y va. Puis là, ils arrivent, puis là, ils ont l'air tough. Pour moi, c'est juste des drag queens morbides, là, fait que c'est tout.
Ouais, ça ressemble à ça. Je suis d'accord avec ça.
C'est ça, mais tu sais, j'enlève rien, j'ai aimé ça, puis je vais continuer à aimer ça. Mais c'est ça.
Mais non, mais tu sais, ça rajoute de quoi théâtral au show. C'est ça, c'est tout juste un côté théâtral, dans le fond, en bout de ligne. Mais c'est ça, c'est quand même drôle de voir se vouloir faire de la grosse métal, du gros métal, haïr tout, puis OK, on va prendre une heure de se préparer avant de faire notre show.
À se crêper les cheveux. Les premières interviews avec les membres de Venom montrent clairement qu'ils étaient eux-mêmes des rock'n'rollers buveurs de bière. Le satanisme projeté dans leurs présentations et leurs paroles était avant tout une image sur laquelle ils sont tombés, garantie de leur assurer attention et notoriété. Il n'y a pas de véritable philosophie derrière cela. au-delà de la rébellion juvénile consistant à présenter un blasphème antichrétien de la manière la plus sinistre que l'imagination puisse avoir. Dans une interview, Chronos a répondu simplement « Je ne prêche pas le satanisme, l'occultisme, la sorcellerie ou quoi que ce soit. Le rock'n'roll est fondamentalement, si l'on... est fondamentalement de faire ce que vous voulez. »
Fondamentalement? C'est ça que tu essayais de dire, Papi Joe?
Ouais. Le rock'n'roll est fondamentalement « Faites ce que vous voulez. » Si l'on devait réduire le satanisme simplement au credo de faire son propre truc, alors Venom pourrait être des satanistes. Mais d'après ce critère, les Beach Boys sont probablement aussi. Après At War with Satan, Venom a dilué une grande...
Mais les Beach Boys, ils ont quand même un lien avec Charles Manson.
Les Beach Boys, je vais revenir aussi aux Beach Boys. Dans le prochain.
Dans le prochain?
Oui.
Tu vas-tu parler de leur lien avec Charles Manson?
Non, je ne parlais pas de Charles Manson. Je vais plutôt
parler. Le drummer, il l'a fâché, Charles Manson.
Il ne faut pas fâcher Charles Manson.
Hein, non, pas longtemps après qu'il a tué tout le monde. Là.
Non, les Beach Boys et le black metal ont un lien commun.
Mm. OK.
Oui, c'est moi quand j'ai
dit. Surfing USA.
Pas loin. Après At War with Satan, Venom a dilué une grande partie de son image.
Ça aussi, j'en ai envie.
Les Beach Boys?
Les Beach Boys.
Peux-tu faire mon estitrance? Après At War with Satan, Venom a dilué une grande partie de son image et des changements de personnel ont fait des ravages sur l'intégrité de leurs enregistrements ultérieurs. Pourtant, les premiers albums du groupe avaient surpris les oreilles de milliers d'enfants fougueux et leur image fabriquée a pavé le chemin vers le black metal que l'on connaît maintenant. Pour certains, il serait le premier groupe de black metal jamais créé.
Damn. Ça a bien fini.
Exactement. C'était de toute beauté.
Yes, yes. Gros épisode?
Oui. Fait que c'est ça. Techniquement, prochain épisode, Enter les années 90. Et c'est pas mal là que ça se passe, le brûlage d'église.
Yeah, on a hâte d'entendre ça.
Avec les Beach Boys.
Avec les Beach Boys. cool, man. Merci pour ce gros épisode. Fait que années 90, dans le prochain épisode, ce sera pas le prochain enregistré, mais dans...
Ben, le prochain, que c'est moi qui va parler inutilement, ouais, pendant une demi-heure
ou plus. Pas inutilement. Tu nous informes, Papi Joe.
J'essaie fort, fort, fort.
All right. Ben, merci beaucoup, tout le monde, d'avoir été là. Papi Joe, où est-ce qu'on peut nous suivre?
Hey, j'ai-tu l'air d'un gars qui connaît ça? T'as le site internet du bruit à mes oreilles.
.com.
.com.
On a .com, est-ce-tu?
On est important, on a .com. Fait que, allez là, si vous savez lire, parce que techniquement, si vous allez sur internet, vous savez lire, toutes les informations sont là, puis ils vont être sûrement mieux décrits que moi en ce moment qui va les faire. C'est sûr qu'on a les autres affaires bizarres, là, comme Instagram, là. On peut aller là, il va avoir l'information. Puis où le stagiaire quand on a besoin de lui?
Ouais, il est pas là, il est dans sa famille pour le temps des fêtes, dans la famille de sa femme pour le temps des fêtes. Par exemple, vu que ça sort demain, Papi Joe,
Trop de pression. J'implose.
On a un gros concours sur notre page Facebook, si vous voulez aller voir. On a, si on calcule vite demain, je pense qu'il y a plus que 300$ en prix à gagner. Sur notre page Facebook, on a...
Ah oui, le bundle.
Oui, on a un gros bundle avec du café, il y a des biscuits, il y a des chandails de bain. Il y a un chandail de bain, il y a un chandail d'un salon de tatouage, il y a 150$ de tatouage à gagner. Il y a des vinyles, des CD, des posters, des stickers. En tout cas, il y a du stock. Fait que juste aller voir ça pour participer puis oui, sur notre page Facebook.
Ça me fait penser aussi, on a eu un tirage un peu avant parce que j'avais mis une pièce de collection vraiment précieuse, mais on a décidé de la faire tirer à part. Fait que j'avais mis un Penthouse de 2003, un spécial le 30e anniversaire ou 25e anniversaire. Puis on l'a fait le tirage, puis c'est Daphné qui l'a gagné.
Ah, bon!
Félicitations, Daphné!
Félicitations. Puis c'est ça. Fait que si vous voulez avoir la chance de gagner ça, juste à vous rendre sur notre page Facebook. C'est important de faire les étapes sur le post original, peu importe où ce que vous voyez ça passer. Fait que, bonne semaine tout le monde, puis à la semaine prochaine!
Bonne semaine!